Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Le Visage du Monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Aujourd'hui, je vous emmène dans un Japon poétique et mystérieux. Pour commencer, je vous propose d'écouter quelques haïkus, petits poèmes de trois vers seulement, qui nous parlent de la nature, de l'instant, de l'éphémère. J'en ai choisi quatre, écrits par une poétesse du XVIIIe siècle nommée Shiyo Ni, et tirés du recueil « Du rouge aux lèvres » paru aux éditions de la Table Ronde. Sur le chemin de la fillette, devant, derrière, des papillons volent. S'il ne criait pas, je ne distinguerais pas le héron. Matin de neige. Fête des poupées. Mon enfant rit sans cesse quand elle tombe. Je bois à la source, oubliant que je porte du rouge aux lèvres.
Fuka.
C'était Fuka du duo franco-mozambicain Candido et Cecilia. J'espère que ces rythmes et mélodies africaines vous ont bien réchauffé, car je vous emmène maintenant dans le froid hiver japonais. Je vais vous raconter un kwaidan, c'est-à-dire une histoire étrange, un conte ancien recueilli par l'écrivain Lafcadio Hearn. Vous pouvez trouver d'autres histoires de ce type dans le petit livre de Lafcadio Hearn paru au Mercure de France et intitulé « Kwaidan » ou « Histoire et études de choses étranges ». L'histoire que je vais vous raconter s'intitule « Yuki Onna », qui signifie « la femme de la neige » ou « le spectre de la neige », dont la forme habituelle est celle d'une belle jeune femme dont les caresses causent la mort. Deux bûcherons, Mosaku et Minokichi, habitaient un village de la province de Mushashi. Mosaku était un vieillard et son aide, Minokichi, un garçon de 18 ans. Ils se rendaient chaque jour à une forêt située à 5 km environ de leur demeure. Pour y arriver, il leur fallait traverser une large rivière au moyen d'un bachot. Bien qu'on eût souvent tenté de construire un pont au-dessus de la rivière, on ne put jamais y parvenir. Car nul pont ne résiste au courant lors de la crue des eaux. Un soir glacial, Mosaku et Minokichi s'en retournaient chez eux lorsqu'ils furent surpris par une violente tempête de neige. Ils gagnèrent la chaumine du bachoteur, mais trouvèrent qu'il s'était en allé après avoir amarré sa barque sur la rive opposée. Comme il faisait trop froid pour nager, les deux bûcherons se réfugièrent dans la chaumière en s'estimant très heureux d'être à l'abri. Rien n'était prévu pour faire du feu. Deux nattes à terre constituaient tout le mobilier. Ils barricadèrent la petite porte, qui servait aussi de fenêtre, et ils s'étendirent sur les nattes, n'ayant pour toute couverture que leur manteau de pluie en paille. Au début, le froid ne les fit pas trop souffrir, et ils croyaient que l'ouragan cesserait vite. Le vieillard s'endormit presque aussitôt, mais Minokichi demeura longtemps éveillé. Il écoutait les sifflements du vent et le choc des masses de neige qui heurtaient la porte de bois. C'était une tempête terrible. L'air se glaçait chaque instant davantage et Minokichi frissonnait sous son manteau de paille. Enfin, le sommeil l'envahit. Il fut réveillé par des flocons de neige qui tombaient sur ses joues. La porte de la cabane était ouverte et la clarté intense de la lumière de neige, Yuki Akari, il distingua une femme, tout en blanc, debout dans la chambrette. Elle était penchée sur Mosaku et lui soufflait au visage. Son haleine était comme une brillante fumée blanche. Soudain, elle se tourna du côté de Minokichi et se baissa vers lui. Il essaya de crier, mais ne put articuler aucun son. La femme inconnue se courbait toujours au-dessus de lui et sa figure touchait presque la sienne. Il vit qu'elle était très belle, mais il eut peur de l'expression de ses yeux. Elle le contempla un long moment, puis elle dit avec un sourire : « Je comptais vous faire mourir, ainsi que le vieillard. Mais à cause de votre extrême jeunesse, je ne puis m'empêcher de ressentir de la pitié pour vous. Je ne vous ferai pas de mal, Minokichi, car vous êtes un joli enfant. Néanmoins, si jamais vous racontez à personne, fût-ce même à votre mère, ce dont vous avez été témoin cette nuit, je le saurai et je vous tuerai. Souvenez-vous de mes paroles. » Puis elle se détourna de lui et sortit. Minokichi se sentit alors redevenu maître de ses mouvements. Il se leva d'un bond et courut regarder au dehors. La femme en blanc avait disparu et la neige pénétrait dans la chaumine par grandes rafales. Le jeune homme referma lui, en prenant soin de le consolider de plusieurs morceaux de bois. Il se dit que, sans doute, le vent l'avait ouvert et que ce qu'il avait pris pour la silhouette d'une femme n'était que le reflet de la lumière de neige. Toutefois, il n'était pas encore rassuré. Il appela Mosaku et fut effrayé lorsque le vieillard ne lui répondit pas. Alors il étendit les mains et tâtonna dans l'obscurité. Il toucha le visage glacé du vieux bûcheron. Mosaku était mort. À l'aube, l'ouragan cessa. Le bachoteur revint à sa hutte dès le lever du soleil. Il y trouva Minokichi étendu sans connaissance à côté du cadavre du vieux Mosaku. Le jeune homme fut bien soigné et revint vite à lui. Mais il demeura longtemps malade des effets de cette nuit de tempête. Il fut très chagriné par la mort de son ancien maître, mais il ne décrivit à personne la vision qu'il avait eue. Une fois guéri, il reprit son travail, Chaque matin, il se rendait seul à la forêt et revenait vers le crépuscule, portant la lourde charge de bois que sa mère allait vendre ensuite à la ville. Un soir de l'année suivante, Minokichi retournait chez lui lorsqu'il dépassa une jeune fille qui suivait le même chemin. Elle était grande, mince, très belle, et elle répondit à la salutation du bûcheron d'une voix douce, pareille au gazouillis d'un oiseau. Il marcha près d'elle et ils se mirent à causer. La jeune fille dit s'appeler Oyuki. Ce nom, signifiant neige, est assez commun au Japon. Elle venait de perdre ses parents et se rendait à Edo, l'ancienne Tokyo, chez des amis qui lui avaient promis de la placer comme servante. Minokichi se sentait charmé par la jolie étrangère. Plus il la regardait, plus elle lui paraissait belle. Il lui demanda si elle était déjà fiancée. Ce fut en riant qu'elle lui répondit qu'elle était libre. Puis, à son tour, elle voulut savoir si Minokichi était marié. Il lui dit qu'il vivait seul avec sa mère et qu'il n'avait pas encore envisagé la question d'une honorable belle-fille. Après ces confidences réciproques, ils continuèrent leur chemin sans plus parler. Mais comme dit le proverbe, lorsque le désir est là, les yeux en disent autant que la bouche. À leur arrivée au village, ils étaient fort agréablement impressionnés l'un par l'autre. Minokichi pria Oyuki de se reposer un instant chez lui. Elle hésita, puis finit par l'accompagner. La mère du jeune homme la reçut cordialement et devant le grand charme d'Oyuki, ressentit pour elle une affection spontanée. Elle parvint même à la persuader d'ajourner son départ pour Edo. Or, il advint qu'Oyuki ne se rendit jamais à la ville. Elle demeura dans la maison de Minokichi en qualité d'honorable belle-fille. Oyuki fut une bruit exemplaire. Lorsque sa belle-mère mourut, ses dernières paroles furent un tendre éloge pour la femme de son fils. Oyuki mit au monde 10 enfants. Tous très beaux et d'une grande blancheur de teint. Les habitants de la contrée la considéraient comme douée d'une force surnaturelle, car tandis que les autres paysannes se flétrissaient vite, elle semblait rester aussi jeune et fraîche que le jour de son arrivée au village, quoiqu'elle eût été 10 fois mère. Un soir, les enfants couchés, Oyuki cousait près d'une lampe, dont la lumière blanche inondait son visage. Minokichi la contempla longuement et lui dit enfin: En vous voyant ainsi, le visage baigné par cette douce clarté, je me souviens d'une aventure bizarre qui m'advint lorsque j'étais un gamin de 18 ans. Il s'agit d'une femme qui était aussi belle que vous. Elle vous ressemblait même étonnamment. Sans lever les yeux de son ouvrage, Oyuki répondit : Parlez-moi d'elle, où l'avez-vous vue ? Minokichi lui raconta alors la nuit terrible passée dans la hutte du bachoteur. Il lui décrivit la femme en blanc qui s'était penchée au-dessus de lui en souriant, et il lui dépeignit aussi la mort tragique et silencieuse du vieux Mosaku. Et il déclara : Ce fut l'unique fois qu'éveillée ou endormie, j'ai vu une créature aussi belle que vous. C'était bien entendu un être surnaturel. J'en avais peur, très peur. Elle était si blanche. À vrai dire, je n'ai jamais pu déterminer si c'était un rêve que j'avais fait ou si j'avais vraiment vu la femme de la neige. À ces mots, Oyuki rejeta loin d'elle son ouvrage et se dressa menaçante. Puis, se penchant au-dessus de son mari assis à terre, elle lui cria : C'est moi que vous avez vu ! Moi, Oyuki ! Je vous avais prévenu que je vous tuerais si vous parliez à qui que ce fût de ce que vous avez vu ce soir d'orage. Je tiendrai ma parole à l'instant même, si ce n'était à cause des enfants qui dorment dans la pièce voisine. Tâchez de prendre bien soin d'eux. Car s'ils ont jamais la moindre occasion de se plaindre de vous, je vous traiterai comme vous le méritez. » Comme elle criait, sa voix allait en s'affaiblissant et devint pareille à la plainte du vent. Oyuki se dissipa en une buée blanche, fine et étincelante, qui s'éleva en spirale vers les poutres enfumées du plafond et disparut en vacillant par le trou pour la fumée. On ne l'a jamais plus revue.
Merci à tous, je vous donne rendez-vous le mois prochain dans Le Visage du Monde sur Radio Sainte-Afrique.